Alors, pas mal de questions. Je commence par le capitalisme. En fait, je vais parler du capitalisme parce que beaucoup des symptômes, des fonctionnements qui sont en cause, on peut les associer assez naturellement au capitalisme. Mais peut-être que la vraie rupture auquel il faut remonter, c'est l'invention de la valeur travail et donc de l'économie politique. Et c'est le passage des physiocrates pour qui il y avait une vraie rareté qui était liée à l'agriculture, liée au terrain, etc. Et puis à cette idée qui a été partagée à la fois par les libéraux et par Marx, que la seule vraie richesse, c'était le travail. Et que donc, on est d'une certaine manière dans un rapport spéculaire entre le social et l'économie, où finalement, il n'y a pas lieu de que l'un surplombe l'autre, puisque toute richesse, finalement, est liée au développement de l'activité. Or, quand on raisonne, c'est pour ça que je prenais l'exemple de l'économie familiale, c'est l'idée simplement qu'on raisonne à certains moments avec des ressources qui sont réellement limitées. C'est-à-dire qu'il y a des vraies raretés, on est obligé de se partager des choses qui ne sont pas extensibles, et que donc, du coup, ça induit des modes de raisonnement qui sont complètement différents. Parce que quand on regarde bien, l'économie politique, avec la valeur travail, ça veut dire que la seule vraie rareté, elle est liée à. Il n'y a pas de rareté, puisqu'il y a toujours de la main-d'œuvre en excédent, d'une manière ou d'une autre. Et la seule vraie question, c'est comment faire travailler le maximum de monde le plus efficacement possible, etc. Or là, on est forcément obligé de raisonner de manière un petit peu différente, même enfin, très différente d'une certaine manière. L'économie du don, c'est vrai, c'était la. Apparemment, l'exubérance, ce qu'il y avait de plus précieux qui était mis à l'échange, etc. Mais c'était quand même sur fond d'une économie de subsistance avec des règles assez précises dans les rapports avec la nature. Ça ne remettait pas en cause une structure assez rigide et assez bien cadrée quant à ce qu'on pouvait obtenir de la nature, etc. Ce qui est vrai, ta deuxième question sur la démesure, l'hubris, c'est vrai que quand on pense, par exemple, au 4x4, l'utilisation d'un 4x4 en ville, ou du fait de prendre l'avion pour un oui ou pour un non, pour aller passer un week-end à l'autre bout du monde, etc., là, on voit bien ce que c'est que l'hubris. C'est vrai que dans beaucoup d'autres cas, les comportements qui apparaissent aujourd'hui problématiques sont des comportements qui apparaissent totalement légitimes et liés simplement au désir de vivre confortablement, d'être mobile, etc. Ça, c'est une réalité, je ne l'ignore pas. Et d'où le caractère quand même assez difficile du sujet. Par exemple, la question de la mobilité, pour ne prendre que celle-là, on voit bien qu'on est dans une question extrêmement difficile. Parce que la mobilité durable, personne ne sait ce que c'est. On ne sait pas aujourd'hui comment, même sans faire du catastrophisme, il devrait être évident pour tout le monde que la manière dont nos enfants, dont les jeunes d'aujourd'hui prennent l'avion, n'est pas un comportement généralisable à l'ensemble de la planète. Donc on est sorti d'un modèle où on était dans des processus d'émancipation qui, potentiellement, étaient supposés généralisables, universalisables, etc. On n'est plus là-dedans, même sans faire de catastrophisme. Et donc, ça pose, d'une manière ou d'une autre, des problèmes de partage, d'auto-limitation, de repenser autrement le bien-être, pour reprendre une expression que j'aime bien, comment retrouver de l'infini dans un monde fini. C'est-à-dire comment retrouver des buts, des formes d'accomplissement, des idéaux qui tiennent compte d'une certaine finitude. Alors, je voudrais répondre à cette accusation de, finalement, de faire un peu du terrorisme intellectuel sur le, sur le caractère contraignant des contraintes physiques. Je suis désolé, mais je suis tout à fait conscient du fait que ça peut apparaître comme une forme de terrorisme, et je ne vois pas le moyen d'y échapper. Pour en rajouter une couche, je travaille actuellement au Conseil général de l'environnement et du développement durable, où on est un certain nombre, quelques dizaines d'ingénieurs, dont beaucoup ont fait leur carrière dans le béton. C'était des gens qui ont construit des autoroutes, qui ont dirigé des entreprises de travaux publics, qui ont été des aménageurs, qui ont travaillé toute leur vie pour développer la mobilité, l'artificialisation de l'espace, etc. Et quand je suis arrivé dans cet organisme il y a un peu plus de 10 ans, il y avait énormément de gens parmi mes collègues qui résistaient considérablement à cette idée de responsabilité anthropique du changement climatique. Il y en avait peut-être la moitié qui était plus ou moins climato-sceptique, ou du moins très, très résistant par rapport à cette idée. Or, je constate qu'aujourd'hui, c'est terminé. Il y a un véritable consensus sur la réalité du phénomène, sur la réalité des enjeux, sur le caractère incontournable de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus ? Alors ça, je suis tout à fait d'accord, ça, c'était tout à fait présent dans mon topo, et c'est un des sujets sur lequel d'ailleurs je suis en train de travailler pour essayer de faire avancer les choses, c'est que on voit bien qu'il y a vraiment une urgence de créer des dispositifs de communication et de production d'informations beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus régulière sur les conséquences, la réalité du changement climatique, ses conséquences, les comportements qui seraient de nature à réduire les émissions de gaz à effet de serre, etc. Parce qu'il y a évidemment toutes les campagnes de l'ADEME, il y a les rapports du GIEC, etc. Mais tout ça est beaucoup trop épisodique. En réalité, on aurait besoin d'un organisme, d'un observatoire participatif, pour le coup, qui associe au maximum les forces sociales à sa gouvernance et qui soit chargé de publier très régulièrement des indicateurs, des rapports, des données sur le sujet pour rendre le sujet beaucoup plus présent dans la conscience collective. Ça me paraît une priorité. Alors, est-ce que c'est une façon de se méfier des gens et de renforcer le rôle du politique, etc. Moi, j'estime que c'est tout simplement de l'information. Et si informer, c'est faire du paternalisme, alors oui, je suis paternaliste. Je pense qu'aujourd'hui, il faut informer. Et est-ce que je ne fais pas confiance aux gens? On a pointé une contradiction, le fait que tantôt je mets l'accent sur le volontarisme, sur le côté top-down, et puis tantôt je mets en cause les comportements des individus sur la mobilité, sur le chauffage, etc. Alors la contradiction, elle n'est qu'apparente, parce qu'en réalité, ces deux aspects, ces deux moments dans mon expression, mais pour moi, c'est un peu la poule et l'œuf. Tout ça fait système. C'est un système global qu'il faut faire bouger à travers à la fois des initiatives qui viennent de la base, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, à titre individuel, sont préoccupés par ces questions et qui essayent de faire des choses. Simplement, on ne leur donne pas d'informations, on ne leur donne pas d'outils. Et donc, il faut bien sûr qu'il y ait des politiques qui rendent possible la mobilisation et la conscientisation de la société. Pour moi, il n'y a pas vraiment de contradiction, pas vraiment lieu d'établir une contradiction entre le bottom-up et le top-down. Simplement, le point sur lequel je serai assez catégorique, c'est que je ne crois pas que la société puisse d'elle-même faire évoluer ses attentes et ses comportements et ses représentations si on ne produit pas un certain nombre d'outils, de cadres de rationalité, de dispositifs d'incitation, ce que j'ai appelé un cadre de rationalité qui soit un peu l'équivalent, le contrepoids du rôle qui est joué aujourd'hui par le cadre de rationalité économique, qui après tout est un cadre tellement prégnant et tellement puissant qu'on finit par l'oublier. Alors j'accélère. Il y a une question sur le choix entre darwinisme international et le technofascisme écologique. Alors, je suis tout à fait d'accord, ces tentations, elles sont évidentes. Quand on réfléchit à tout ça, quand on prend la mesure du caractère potentiellement apocalyptique de la situation, on tombe forcément sur cette tentation, et quand on voit très bien des gens qui, quand on les pousse un peu dans leur retranchement, tombent dans l'une ou l'autre de ces deux tendances. Et il y a beaucoup de gens qui, sans trop le dire, font le choix du darwinisme international, c'est-à-dire qu'ils disent au fond, nous on est plus riches, on finira par s'en sortir d'une manière ou d'une autre, et d'autres qui, d'une manière ou d'une autre, pensent que tôt ou tard, tout ça se terminera par des solutions très autoritaires, etc. Or, en réalité, quand on creuse un peu, aucune de ces voies n'est réellement viable. Parce que le darwinisme international, il sous-estime le fait que la menace est véritablement une menace globale et que, par exemple, si le niveau de la mer s'élève, parmi les premiers endroits menacés, il y aura Manhattan, il y aura Wall Street, etc. Je veux dire, les riches subiront peut-être des conséquences un petit peu moins dramatique en termes humanitaires, mais en tout cas des conséquences absolument considérables, et en tout cas suffisamment considérables pour que les riches ne puissent pas se désintéresser du changement climatique. Et, autre aspect, s'ils veulent s'attaquer au changement climatique, si les riches considèrent que le changement climatique les menace personnellement, ils seront obligés de raisonner solidairement et globalement en tenant compte du fait que si la Chine et l'Inde ne sont pas d'accord pour s'associer à l'effort, ça ne servira à rien, etc. Et donc, d'une certaine manière, on est un peu dans une seringue vertueuse. Alors, le technofascisme écologique, je n'y crois pas non plus, parce que les comportements qu'il s'agit de changer se situe à différents niveaux. On a à la fois besoin de régulation globale et d'éléments de gouvernance globale, y compris de manière très contraignante, par exemple en matière de climat. Il faudra bien qu'il y ait des dispositifs de contrôle pour vérifier que les différents pays respectent leurs engagements de réduction des gaz à effet de serre. Mais dans le même temps, tout ça ne sera viable techniquement et socialement, que si les communautés locales se mobilisent, que si la résilience des communautés humaines est assurée par des changements qui seront aussi des changements microsociaux, qui seront forcément des changements autogérés, reposant sur une forte mobilisation locale, etc. Donc, on est dans la difficulté maximale qui est de concevoir à la fois des éléments de gouvernance globale, y compris avec des éléments de contrainte non négligeables, et en même temps des éléments de démocratie, de participation, de mobilisation locale, de solutions très différenciées suivant les lieux pour faire par exemple sur le plan agricole, pour avoir des systèmes agricoles qui soient adaptés à différents types de situations. Donc moi je considère que tout ça est absolument passionnant sur le plan de la pensée politique, parce que ça oblige à concevoir une cosmopolitique multiniveau avec des systèmes de gouvernance extrêmement, extrêmement différenciés. Mais encore une fois, aucune des deux hypothèses que vous avez indiquées, même si elles sont très prégnantes dans l'esprit des gens, aucune des deux ne peut véritablement fonctionner. Je termine par la question sur, l'aléa et le risque acceptable. Il me semble qu'on n'est pas dans une problématique de risque. Si on raisonne par exemple sur, sur les problèmes sanitaires, sur le risque lié à une pandémie de grippe aviaire ou à des problèmes liés à des risques sanitaires liés à tel ou tel type de pollution, on est là dans des questions d'aléas, dans des questions de risque, et quand on applique le principe de précaution, on devrait plutôt le réserver à ce genre de situation. Je considère que le changement climatique, on n'est pas dans ce cas de figure. On est dans un degré de certitude qui est suffisant pour qu'on ne puisse plus... Certes, il y a des incertitudes, il y a une menace, il y a de grandes incertitudes sur l'ampleur du risque et sur ses conséquences exactes, mais sur l'existence du risque et sur la nécessité d'agir, je considère qu'on n'est plus dans une question de savoir si on a tant de chances d'y échapper ou pas. On est au-delà de cette question.